Rien n'avait changé, pourtant. Il était dans sa chambre, encombré de papiers et de livres. Autour, les bruits familiers. Dans la rue, le clairon qui sonnait la fin de l'alerte. Dans l'escalier, le bavardage satisfait des locataires remontant de la cave. À l'étage au-dessus, la promenade maniaque du vieux voisin qui attendait depuis des mois son fils disparu. Mais dans sa chambre n'étaient plus ses soucis embusqués qu'il y avait laissés. Il arrive parfois qu'un accord incomplet sonne, d'une façon rauque. Il laisse l'esprit inquiet, jusqu'au moment où une note s'y ajoute qui opère la fusion des éléments hostiles ou froidement étrangers, comme des visiteurs qui ne se connaissent point et attendent d'être présentés. Aussitôt, la glace est rompue, et l'harmonie coule d'un membre à l'autre. Cette chimie morale, un tiède et furtif contact venait de l'opérer. Pierre n'avait pas conscience de la cause du changement. Il ne songeait pas à l'analyser. Mais il sentait que l'hostilité habituelle des choses s'était brusquement amortie. Une douleur lancinante à la tête vous habite depuis des heures. Soudain, on s'aperçoit qu'elle n'est plus là. Comment est-elle partie ? À peine si les tempes bourdonnent encore du souvenir. Pierre restait en défiance devant ce calme nouveau. Il le soupçonnait de cacher, sous une trêve passagère, un retour plus cruel du mal qui reprend haleine. Il connaissait déjà les répits que l'art procure. Quand pénètre en nos yeux la divine proportion des lignes et des couleurs, ou dans le creux voluptueux de la coquille sonore les beaux jeux variés des accords qui s'égrènent et se nouent selon les lois des membres harmonieux, la paix se fait en nous, et la joie nous inonde. Mais c'est un rayonnement qui nous vient du dehors. On dirait d'un soleil dont les feux lointains nous tiennent suspendus, fascinés, au-dessus de notre vie. Il ne dure qu'un temps, et ensuite on retombe. L'art n'est jamais qu'un oubli passager du réel. Pierre, craintif, s'attendait à la même déception. Mais le rayonnement, cette fois, venait du dedans. Rien de la vie n'était oublié. Mais tout s'harmonisait. Les souvenirs, les pensées nouvelles, jusqu'aux objets, aux livres, aux papiers dans la chambre, s'animaient, reprenaient un intérêt qu'ils avaient perdu. Depuis des mois, sa croissance intellectuelle était comprimée, comme un jeune arbre qui, en pleine floraison, est flétri par l'essaim de glace. Il n'était pas de ces garçons pratiques qui profitaient des facilités universitaires accordées aux jeunes classes sur le point d'être appelées, pour décrocher hâtivement un diplôme sous le regard indulgent des examinateurs. Pas davantage, il n'éprouvait l'avidité désespérée du jeune homme qui, voyant la mort prochaine, fait des bouchées doubles et dévore les connaissances qu'il ne pourra jamais vérifier dans la vie. Le sentiment perpétuel du vide qui était au bout, du vide qui était dessous, partout caché sous l'illusion cruelle et absurde du monde, coupait tous ses élans. Il se jetait sur un livre, sur une pensée, puis s'arrêtait découragé. À quoi cela mène-t-il ? À quoi bon apprendre ? À quoi bon s'enrichir s'il faut tout perdre, tout laisser, si rien ne vous appartient ? Pour que l'activité, pour que la science ait un sens, il faut que la vie en ait un. Ce sens, nul effort de l'esprit, nulle supplication du cœur n'avait pu l'obtenir. Et voici que de soi-même, ce sens était venu. La vie avait un sens. Quoi donc ? Et cherchant d'où venait ce sourire intérieur, il vit la bouche entrouverte, sur laquelle sa bouche brûlait de se poser. En temps ordinaire, cette muette fascination n'eût pas sans doute persisté. À cette heure de l'adolescence où l'on est amoureux de l'amour, on le voit dans tous les yeux. Le cœur avide et incertain le butine des uns aux autres, et rien ne le presse de se fixer. Il est au début de sa journée. Mais la journée d'aujourd'hui serait brève. Il fallait se presser. Le cœur du jeune homme se hâtait d'autant plus qu'il était en retard. Les grandes villes, qui de loin paraissent des solfatares fumantes de sensualité, abritent de fraîches âmes et des corps ingénus. Combien de jeunes hommes, de jeunes filles, qui respectent l'amour et gardent leur sens vierge jusqu'au mariage. Même dans les milieux raffinés, où la curiosité cérébrale est précocement excitée, que d'étranges ignorances se dissimulent sous les libres propos d'une jeune mondaine ou de tel étudiant qui connaît tout et ne sait rien. Il y a dans le cœur de Paris des provinces naïves, de petits jardins de cloîtres, des puretés de sources. Paris se laisse trahir par sa littérature. Ceux qui parlent en son nom, ce sont les plus souillés. Et l'on sait trop, d'ailleurs, qu'un faux respect humain empêche souvent les purs d'avouer leur innocence. Pierre ne connaissait pas encore l'amour, et il était livré au premier de ses appels. À l'enchantement de sa pensée, ceci s'ajoutait encore, que l'amour était né sous l'aile de la mort. En cette minute d'émoi où ils sentaient passer au-dessus de leur tête la menace des bombes, où la vision sanglante de l'homme mutilé leur saisissait le cœur, leurs doigts s'étaient cherchés. Et tous deux y avaient lu, en même temps que le frisson de la chair qui a peur, l'affectueux réconfort de l'ami inconnu. Fugitive pression. L'une des mains, celle de l'homme, dit « Appuie-toi sur moi ». Et l'autre, maternelle, refoule sa propre crainte pour dire « Mon petit ». Rien de tout cela n'était parlé, ni oui. Mais ce murmure intérieur remplit l'âme, bien mieux que les paroles, ce rideau de feuillage qui masque la pensée. Pierre se laissait bercer par ce bourdonnement, tel le chant d'une guêpe dorée qui flotte dans le clair-obscur de l'être. Ses jours s'engourdissaient dans sa langueur nouvelle. Le cœur solitaire et nu rêvait la chaleur du nid. En ces premières semaines de février, Paris comptait ses ruines du dernier raid et léchait ses blessures. La presse, enfermée au chenil, aboyait aux représailles. Et selon la parole de l'homme qui enchaînait, le pouvoir faisait la guerre aux Français. La saison des procès de trahison s'ouvrait. Le spectacle d'un misérable qui défendait sa tête, âprement réclamé par l'accusateur public, amusait le tout Paris, dont l'appétit de théâtre n'était pas rassasié par 4 années de guerre et 10 millions de morts croulant dans la coulisse. Mais l'adolescent restait uniquement absorbé par l'hôte mystérieux qui était venu le visiter. Étrange intensité de ses visions d'amour, imprimés au fond de la pensée et cependant dénués de contours. Pierre eût été incapable de dire la forme des traits, ou la couleur des yeux, ou le dessin des lèvres. Il n'en pouvait retrouver que l'émotion en lui. Toutes ses tentatives pour préciser l'image n'aboutissaient qu'à la déformer. Il ne réussit pas mieux lorsqu'il se mit à sa recherche dans les rues de Paris. À tout instant, il croyait la voir. C'était un sourire, une jeune nuque blanche, une lueur en des yeux. Et le sang lui battait au cœur. Il n'existait aucune ressemblance entre ces images fuyantes et l'image réelle qu'il cherchait et qu'il croyait aimer. Ne l'aimait-il donc pas? Justement, il l'aimait. Et c'est pourquoi il la voyait partout et sous toutes les formes. Car elle est tout sourire, toute lumière, toute vie. Et le dessin exact serait une limite, mais on veut cette limite pour étreindre l'amour et pour le posséder. Ne la revit-il plus jamais, il savait qu'elle était. Elle était. Et quel était le nid? Dans l'ouragan, le port, le phare dans la nuit. Stella Maris, amor. Amour veille sur nous, à l'heure de la mort. Sur le quai de la Seine, le long de l'Institut, il passait, regardant distraitement l'étalage d'un des rares bouquinistes restés fidèles au poste. Il se trouvait au bas des marches du Pont des Arts. Levant les yeux, il vit celle qui l'attendait. Un carton à dessin sous le bras, elle descendait les marches, comme une petite biche. Il ne réfléchit pas l'ombre d'une seconde. Il s'élança à sa rencontre, et tandis qu'il montait vers elle qui descendait, pour la première fois leurs regards se posèrent l'un sur l'autre et entrèrent. Et arrivé devant elle, s'arrêtant, il rougit. Et surprise, le voyant rougir, elle rougit. Avant qu'il eût repris souffle, le petit pas de biche avait déjà passé. Quand la force lui revint et qu'il put se tourner, sa robe disparaissait au tournant de l'arcade qui donne sur la rue de Seine. Il ne chercha pas à la suivre. Appuyé sur la rampe du pont, il voyait son regard dans le fleuve qui coulait. Pour quelque temps, son cœur avait une pâture nouvelle. Ô chers stupides adolescents!